un petit gars de l'Abitibi, fait que quand Jacinthe m'a demandé « Hey Max, ça te tente-tu qu'on jase avec Emmanuel Toussaint, PDG de l'Association minière du Québec? » C'est sûr que j'ai dit un gros oui, ça va me rappeler mon enfance en Abitibi où à Val-d'Or, tout tourne pas mal autour des mines. Puis toi, Jacinthe, j'imagine que c'est quelque chose qui t'interpelle beaucoup pour ce qui est de l'économie.
Ben oui.
On sait à quel point au Québec, l'industrie minière, c'est quelque chose qui est essentiel au niveau économique. Fait qu'on a en studio avec nous Emmanuel Toussaint, qui est PDG de l'Association minière du Québec. Ça va bien?
Oui, ça va très bien, merci.
Il y a un récent classement de l'Institut Fraser, puis c'est un peu pour ça qu'on se parle ce matin. Bon, classement qui mesure l'attractivité du secteur minier un peu partout pour les investisseurs. Puis le Québec, historiquement, a toujours fait bonne figure dans ce classement-là. L'année passée, on était au cinquième rang, ce qui est excellent. Là, on sort du top 20 cette année, selon ce classement-là de l'Institut Fraser. Pourquoi une telle chute?
Il y a plusieurs éléments qui sont identifiés directement dans le rapport. Il faut savoir que c'est vraiment un sondage qui est fait au sein de 82 juridictions dans le monde. Donc, chaque province et chaque État, entre autres aux États-Unis, là, sont sondés. Il y a trois éléments qui ressortent particulièrement. Celui où on a perdu le plus de points, là, qui nous a fait vraiment chuter, c'est au niveau du régime fiscal. Alors, il y a différents éléments. C'est sûr que lorsqu'une société minière décide d'investir, décide de faire de l'exploration, on va regarder évidemment où il y a des gisements, qu'est-ce qui est une juridiction là, qui est intéressante pour son potentiel minier, mais elle va aussi regarder les politiques publiques. Donc, on a 33 points qui a eu une différence de 33 points pour le régime fiscal. Alors, ça peut être un mélange de qu'est-ce que nous, on n'a pas fait, comme entre autres l'industrie minière demande depuis plusieurs années, soit d'avoir droit à l'amortissement accéléré, par exemple, ou encore d'avoir des congés fiscaux pour les grands investissements, d'avoir aussi des mesures qui restent non seulement pour les minéraux critiques et stratégiques qui sont essentiels, évidemment, on le sait, hein, c'est vraiment une grande partie de notre futur. Mais il ne faut pas oublier aussi nos métaux de base, nos métaux aurifères. Vous avez parlé, entre autres, de l'Abitibi et Témiscamingue. Alors, évidemment que l'or, c'est vraiment un secteur qui est encore, là, c'est un secteur économique qui est très fort avec le fer. Alors, il ne faut pas les oublier. Il y a un deuxième élément également où on a quand même perdu beaucoup de points et c'est au niveau du chevauchement entre les ministères puis le dédoublement entre le fédéral et le provincial. Alors, entre autres, quand il y a des autorisations environnementales qui sont nécessaires, bien, il faut savoir qu'au Québec, on a notre processus puis au fédéral, il l'a aussi. Alors ça, les deux gouvernements, les deux paliers sont déjà au courant. Ils se parlent, ils travaillent là-dessus, mais c'est toujours une incertitude qui est là. Il y en a, puis le troisième là, qui ressort de façon plus forte, c'est tout le côté, le système juridique. Donc, tout ça, c'est est-ce qu'on a des processus qui sont transparents? Est-ce qu'on respecte les temps qui sont annoncés? Est-ce qu'ils sont efficaces? Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment là, l'incertitude, autant au niveau réglementaire, environnemental, parce que ça, c'est pas dans le top 3 là, entre l'étude qui avait été dévoilée l'année passée et celle de cette année. Mais le côté environnemental a quand même subi une très grosse chute en 2 ans. Puis un des éléments aussi là, que je vous dirais au-delà des critères que je viens de mentionner, c'est que l'année passée, lorsque le sondage a été fait auprès des sociétés qui font de l'exploration minière, c'était en plein pendant l'adoption du projet de loi 63 qui modifiait la loi sur les mines. Donc, ça a créé vraiment beaucoup d'incertitudes. Le sondage a été fait du mois d'août au mois de décembre 2024. Donc, la commission parlementaire, puis le projet de loi a été adopté finalement au mois de novembre. Mais là-dedans, bon, il y a beaucoup de pouvoirs réglementaires, c'est-à-dire qu'il y a des règlements qui ne sont pas encore connus, qui ne sont pas encore adoptés. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir de façon précise dans ces règlements-là. Il y a un pouvoir discrétionnaire aussi de la ministre. Alors, il y a différentes choses comme ça. Là. Je pense que le sondage, ça vient vraiment démontrer toute l'incertitude qui a été générée dans le contexte de ce projet de loi-là.
Comment va notre industrie minière au Québec? là, à cette époque-ci, en 2025?
Bien, c'est une industrie qui est vraiment forte. C'est une industrie, un facteur économique, là. Je veux dire, en 2022, nous, on a fait un rapport économique. On le fait tous les deux ans, là. Puis on contribue au PIB pour 12 milliards seulement les membres de l'Association minière du Québec et leurs fournisseurs. Donc, on parle de 15 000 emplois directs, 51 000 emplois indirects. Alors, c'est un secteur qui est très, très fort. Je vous dirais, ça va bien, sauf que les projets miniers, c'est eux, c'est vraiment le futur là, de notre économie. Et ça fait quand même un bon bout de temps là, qu'il n'y a pas eu de projet qui s'est concrétisé. Puis il faut savoir qu'un projet minier, là, on parle d'investissement de plus de 1 milliard. Il n'y en a pas beaucoup, des projets comme ça. On a même une industrie manufacturière qui s'installe et tout, ce n'est pas aussi considérable. Donc, notre potentiel est là. Puis encore, plus tôt cette semaine, là, je lisais M. Legault, la ministre Blanchette Vézina, qui parlait comment les minéraux critiques et stratégiques, c'est notre futur qu'on peut compétitionner avec la Chine. Et ils ont entièrement raison. On est chanceux au Québec, notre sous-sol regorge de ces minéraux critiques et stratégiques-là, mais il ne faut pas le prendre pour acquis. Puis c'est ça que le rapport de l'Institut Fraser nous rappelle, c'est de ne pas prendre pour acquis parce qu'on a le potentiel dans notre sous-sol. Il reste qu'une grande partie de la décision des sociétés minières, là, ils vont la prendre en fonction des politiques publiques.
Mais justement, à quel point d'avoir cette chute-là dans le classement, ça peut être néfaste, t'sais, pour des... Là, on regarde ça, OK, c'est une chute. Bon, c'est sur papier, ce sont des chiffres. Mais dans le concret, ce que ça veut dire, c'est que des investisseurs qui, peut-être, dans les dernières années, auraient davantage voulu venir développer au Québec... Et que là, ben, on est pas mal moins intéressant pour eux autres?
Oui, bien, c'est sûr que ce sondage-là vient confirmer les perceptions. C'est que c'est la perception des sociétés qui investissent dans le domaine minier. Alors, c'est une image. Évidemment, il faut aussi revenir, je pense, avec c'est quoi l'objectif du rapport de l'Institut Fraser. Et l'objectif, c'est vraiment d'aider les gouvernements à être attractifs, à être compétitifs.
Là, il faudrait que ce soit un wake-up call.
Bien, c'est exactement. C'est que là, depuis vraiment là, plusieurs années, dans les cinq dernières années, on était toujours dans le top 10 des juridictions, des meilleures juridictions dans le monde. L'année passée, on était cinquième, on avait été sixième auparavant. Là, c'est quand même une chute qui est considérable, 22e. Alors là, effectivement, il faut vraiment se reposer la question, bien, si on veut vraiment être un joueur, non seulement pour les minéraux critiques et stratégiques, mais aussi pour la filière minière traditionnelle, comme je disais, au niveau de l'or, au niveau du fer, bien là, il faut vraiment se reposer des questions et regarder les autres juridictions, elles, les autres pays, provinces, États qui se sont améliorés, qu'est-ce qu'ils ont mis en place?
Quand on parle de politique fiscale, on fait souvent référence à l'aide de l'État, finalement, soit avoir des crédits d'impôt avantageux ou avoir une intervention de l'État en matière de fiscalité pour les entreprises. Mais il y a aussi tout le secteur législatif et réglementaire. Donc, le gouvernement, sans sortir d'argent de ses poches ou sans se priver de revenus liés à l'industrie minière, peut aider l'industrie minière simplement en allégeant le fardeau réglementaire et législatif. Donc, j'imagine que vous, à l'industrie minière, vous jonglez avec ces deux prérogatives-là, le secteur plus fiscal, mais aussi le secteur réglementaire et législatif, où on est le plus en retard par rapport aux autres juridictions dans le monde?
Ouais. Bien, vous avez entièrement raison. Je vais commencer par vous dire là, qu'on a fait un sondage en début d'année avec toute lorsqu'il y avait des menaces de tarifs oui. de la part de l'administration Trump. Et ça ressortait très fort. Et c'est une des choses, c'est sûr que le côté fiscal sortait aussi dans le top 3 des mesures qui étaient demandées par l'industrie minière. Mais ça, je pense que c'est toutes les industries en tant que telles qui le demandaient. Mais on a vraiment mis un très grand focus sur l'allègement administratif et réglementaire parce que c'est là où le bas blesse.
Ouais.
Sans changer, c'est pas une question non plus de changer les lois, c'est pas une question de changer le côté réglementaire, les règlements, là. Et en aucun cas, on demande des assouplissements par exemple, pour la réglementation environnementale. C'est pas ça. L'industrie minière, là, ce n'est plus ce que c'était ouais. il y a 60 ans ou encore plus longtemps que ça, même 25 ans. C'est une industrie qui est vraiment responsable, qui s'améliore continuellement. Il y a toutes sortes de mesures en matière de développement durable. Mais malheureusement, il y a quand même des éléments là, au niveau de la façon dont les règlements sont appliqués. Un des exemples qu'on donne souvent, c'est du côté des décrets. Il faut savoir qu'un projet minier, avant de pouvoir se mettre en marche là, de façon un peu plus formelle, ça prend un décret, par exemple. C'est que là, c'est toute l'incertitude autour de l'adoption d'un décret ou d'avoir des normes, par exemple, qui vont être imposées par voie de décret, donc qui ne sont pas dans des règlements. Mais les normes, comment elles sont établies ou encore de demander là, vraiment de façon continue d'avoir des normes qui vont être de plus en plus, je dirais, là, qui vont progresser dans le temps, c'est ce genre d'incertitude-là qui est créé. D'avoir aussi les autorisations. Quand on regarde seulement les délais pour les autorisations environnementales, par exemple, et les différents permis, ça se passe quand même assez bien, mais si on regarde, par exemple, à partir de quand on commence à calculer le délai, parce que ça, le gouvernement suit vraiment là, combien de temps que ça prend avant qu'on autorise, qu'on accorde les permis et tout. Mais il y a beaucoup d'échanges de va-et-vient entre les sociétés minières et le gouvernement avant que les délais débutent vraiment. Donc, c'est sûr que du côté environnemental, je pense qu'on a encore du progrès à faire, mais il y a de l'ouverture. Hein. Faut pas penser que le gouvernement n'est pas ouvert du tout. Là, on a des échanges. Ils le savent qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Puis on peut regarder autour de nous aux États-Unis, depuis que Trump est arrivé, là, c'est une des choses, peut-être un peu un électrochoc qu'il nous a donné. Il a adopté plusieurs décrets, notamment un en mars, là, qui est vraiment pour accélérer les projets miniers. Mais il y a d'autres juridictions qui l'ont fait aussi en Ontario. C'est la même chose. Il y a un projet de loi qui a été déposé au mois d'avril. L'Europe l'avait fait aussi l'année passée. Il y a une nouvelle loi pour les minéraux critiques et stratégiques qui est rentrée en vigueur, qui avait été adoptée l'année d'avant. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments où on peut s'améliorer sans que ça coûte quoi que ce soit.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus difficile de faire bouger les choses, de changer les choses parce que l'industrie minière, en fait, la population a peut-être une certaine vision de l'industrie minière de, ouais, on sait bien les méchants gros investisseurs étrangers qui viennent nous voler nos minéraux, qui viennent nous voler notre stock sur notre territoire puis qui repartent avec ça. Fait que pour les gouvernements, c'est peut-être pas payant d'assouplir certains éléments pour l'industrie minière. Sentez-vous que ça peut jouer?
Oui, je le tournerais plutôt d'une autre façon. On dit souvent qu'on a des ressources premières, là, donc que ce soit dans le domaine du bois ou que ce soit avec nos métaux, nos minéraux, on est chanceux, on a beaucoup de ressources naturelles, mais il faut aussi les transformer. Puis c'est là où on arrive vraiment avec une valeur ajoutée. Puis ça, c'est une chose aussi qu'il faut toujours garder en tête, c'est qu'on peut évidemment les extraire, mais si on veut vraiment en bénéficier de nos ressources, bien, il faut être en mesure aussi de les transformer ici.
Et justement, est-ce qu'on transforme assez ou faut augmenter la vitesse? Parce que vous avez parlé tantôt des mesures drastiques que l'administration Trump a prises du côté des États-Unis. Est-ce que ça a donné une espèce de décalage encore plus prononcé entre notre agilité ici en matière de développement minier par rapport aux États-Unis? Et est-ce que, justement, le secteur de la transformation ne serait pas une des clés pour peser sur l'accélérateur?
Bien, vous avez entièrement raison. C'est une des choses là, qu'on dit. Il faut accélérer, évidemment, également au niveau de l'extraction. Puis avant d'arriver avec l'extraction, bien, c'est vraiment là, d'encourager l'exploration minière. Ouais. Puis je vais juste mentionner, là, on estime, là, puis c'est selon même le gouvernement, là, c'est à peu près un projet d'exploration minier sur 1000 qui aboutit à une mine.
Ah,
c'est que ça, c'est important. Puis on a seulement 10 % du territoire québécois qui a été exploré.
Ah.
Donc, il y a énormément la plus grande partie du territoire québécois n'a pas encore été explorée. Et la transformation, c'est important. Et quand je parlais tout à l'heure de ce que le président Trump fait aux États-Unis, il y a eu tout un grand accent qui a été mis sur le côté de l'exploration, puis la facilitation, là, l'accélération des permis et des autorisations. Mais il focus aussi énormément sur la transformation,
ouais,
parce que son intention, c'est de ramener la transformation aux États-Unis. Et nous, on a exactement les mêmes défis, les mêmes enjeux. C'est-à-dire qu'on le sait, les pays occidentaux, tout ce qui est le volet industriel, la transformation, Ça a été transféré dans d'autres pays, notamment en Chine, pendant vraiment des décennies. Et ça crée une dépendance. Quand il arrive des tensions politiques ou commerciales, comme on le vit quand même là, depuis, je dirais, les dernières années et encore plus au cours des derniers mois, bien, ça met vraiment en lumière comment on est dépendant. Donc, il faut vraiment qu'on puisse mettre l'accent là-dessus, puis qu'on pense aussi à nos entreprises qui sont déjà en opération. Comme on a une seule fonderie au Canada de cuivre. Il en reste une. Ouais. Il y en avait quelques-unes dans les années précédentes, mais ils ont toutes fermé au fil des années. Donc, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on aime mieux importer, c'est-à-dire on extrait des minéraux, ça s'en va dans d'autres pays, c'est transformé, c'est affiné, c'est raffiné ailleurs et ça revient ici, ou on veut vraiment que notre économie là, soit un écosystème global et on a moins de dépendance.
Le temps file, mais je voulais absolument aborder ce dernier sujet-là. Vous avez participé à un panel sur la place des femmes dans l'industrie minière, puis je trouve ça super cool que la PDG de l'Association minière du Québec soit une femme parce que, je l'ai dit, je viens de l'Abitibi, puis on a encore vraiment cette impression-là que les mines, ben, c'est un domaine de boys. À quel point c'est vraiment encore le cas ou si c'est en train de changer?
Bien, ça change progressivement. Je vous dirais qu'il y a des sociétés minières qui sont vraiment très axées sur la diversité, là, qui prennent beaucoup d'initiatives pour favoriser la place non seulement des femmes, mais de la diversité sous d'autres formes, là, entre autres avec les communautés autochtones. On est à peu près à 15% là, de représentativité féminine dans l'industrie minière. Il en reste encore beaucoup à faire, mais il faut savoir aussi que l'industrie minière, souvent, il va avoir le fameux navetage, là, c'est-à-dire du fly-in, fly-out. Mm-hmm. C'est pas toujours évident non plus. Souvent, les gens vont faire ça selon leur contexte, là, mais ça peut être parfois un frein et aussi d'avoir des horaires qui sont 12 heures par jour. Alors, ça aussi, c'est des éléments qui sont pas évidents. Alors, il y a des transformations plus profondes, disons, pour arriver avec une meilleure attractivité dans les postes de haute direction aussi. Mais c'est sûr que on le voit, là, à chaque année, il y a une progression des femmes dans le secteur. Plus il y a de femmes aussi dans les secteurs des technologies puis des sciences, bien plus on va voir une représentativité également des femmes dans le secteur minier. Mais moi, je trouve que c'est un domaine aussi qui est souvent méconnu et qu'on ne le voit pas nécessairement. Alors, c'est sûr que c'est un de nos rôles aussi, là, même directement pour les étudiants, là, de faire valoir un peu puis d'expliquer mm-hmm. tout ce qui se fait dans l'industrie minière et comment c'est hot.
Emmanuel Toussaint, PDG de l'Association minière du Québec. Très intéressant. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Au retour, Josh Inarski, chroniqueur politique québécoise. On va se jaser de bière brassée, ici dans la région, mais avec le but de conscientiser les gens au gaspillage de l'eau potable.